Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à vous à l'écoute, Armand Dubois micro, heureux de vous accueillir. 5 ans après la fin de la trilogie Charles Téméraire, il nous est revenu avec un nouveau roman, La serveuse du Café Chérier. Le livre met en scène une serveuse du célèbre Café Montréalais et amante d'un écrivain qui aimerait bien compléter son premier roman et qui se retrouvera bien malgré elle, poursuivi par l'éditeur de celui-ci. Est-ce une autobiographie? Peut-être pas. Il pourra seulement nous en parler. Il compte donc plusieurs romans à son actif, dont Le Matou, bien sûr, Juliette Pomerleau, qui ont respectivement été adaptés pour le grand et le petit écran. Il a aussi écrit des livres jeunesse, incluant la série Antoine et Alfred. Avec grand plaisir, j'accueille pour vous aujourd'hui le romancier Yves Beauchemin. Rebonjour, M. Beauchemin.
Rebonjour à vous.
Vous avez passé une belle semaine?
Très belle, très, très laborieuse, enfin laborieuse dans le sens de travail.
Ah bon, je parlais du roman La serveuse du Café Chérier. C'est sûrement pas une autobiographie, mais dans ce roman, on voit la difficulté qu'on peut avoir à écrire et des fois aussi à compter fleurette.
Oui, ben en fait, vous parlez du personnage de Pierrot Bernard, oui. le faux écrivain, en
bien
fait,
sûr.
Parce que pour
on
lui...
On ne veut pas vendre non plus l'histoire.
Trop l'histoire, non, bien sûr. Le faux écrivain quinquagénaire qui séduit une jeune serveuse qui est au début de la vingtaine, plutôt. Mm-hmm. Mais pour moi, l'écrivain qui écrit toujours, mais qui n'a jamais publié, et qui, dans le fond, se sert de son métier d'écrivain boudé par le succès, comme par avant, pour recevoir des prestations d'aide sociale. Alors, c'est un personnage un peu, comment je peux dire, gluant, qui m'a été inspiré par une rencontre que j'ai faite dans des circonstances très particulières, que je vais bien sûr garder assez vague pour des raisons que vous pouvez imaginer.
Mais enfin, c'était ma question, d'où vient, quelle est la genèse d'un livre lorsqu'on est romancier? Nous, lecteurs, on se pose toujours cette question, d'où lui est venue cette idée?
La genèse est diverse. Parfois, ce sont des personnages réels qu'on rencontre et puis qu'on gobe, en quelque sorte, et qu'on réintroduit dans une autre vie, qui est la vie de nos livres. D'autres fois, ce sont des personnages dont l'origine nous échappe autant à nous qu'à vous. Ou alors, on le découvre seulement que des années plus tard. Le personnage de Mélanie, qui est le personnage principal du roman dont on parle, mm-hmm. c'est un personnage que j'avais dans mes notes depuis plusieurs années, depuis au moins une dizaine d'années, parce que j'ai toujours une cour de matériaux dans laquelle je puise pour utiliser, dans laquelle je puise au besoin. C'est beaucoup plus technique qu'on pense, l'écriture. Les gens se font une image d'un écrivain, c'est genre, il écrit la nuit, les cheveux longs et aucun horaire. C'est la fantaisie, il attend que l'inspiration s'empare de lui. C'est une idée romantique qui ne colle habituellement pas au réel, parce que dans n'importe quelle profession, et ça inclut les arts, ceux qui réussissent à bâtir une œuvre sont des bûcheurs, et pour être bûcheur, il faut être discipliné. Mm-hmm. Je ne peux pas dire que je suis un modèle total de discipline, mais j'y tends depuis au moins 50 ans. Autrement dit, j'écris tous les jours. Je pourrais peut-être écrire davantage, mais je sais une chose, c'est que si je n'écrivais que lorsque cela me tente, je n'aurais pas publié mes livres.
On va se tremper dans... un roman qui a connu un succès extraordinaire. On dit que le film qui en a été fait a circulé un peu partout. Le roman lui-même a été traduit en plusieurs langues.
17 ou 18.
17 ou 18 langues. On parle bien sûr du Matou. Mm-hmm. On se souvient de M. Émile. On se souvient aussi de ce personnage, Rataplavaski. C'est bien cela?
Bravo, vous l'avez eu.
Alors, on va écouter la chanson qui a été utilisée dans le film de Baudin. C'est Marie-Michel Desrosiers et Pierre Bertrand qui interprètent M. Émile.
Une très jolie chanson.
Redis-moi des histoires de petits gars, de chats qui font peur aux gros loups. N'oublie pas de bien me raconter le jour où tu nous as adoptés. Dis-moi, mon caribou,
Monsieur Émile s'en vient avec son vieux chat dans ses bras. Il est le monseigneur du coin. Faut pas le faire fâcher, il est le shérif du quartier, le grand champion de tous les polissons.
Si je te dis que je t'aime en maudit, que je m'ennuie depuis que t'es parti, viendras-tu te blottir dans mes bras dernière fois? Dis-moi, mon beau petit caribou,
Monsieur Émile s'en va avec son vieux chat dans ses bras. Il est le monseigneur du coin. Faut pas le faire fâcher, il est le shérif du quartier, le grand champion de tous les polissons, champions de tous les petits garçons.
Yves Beauchemin est avec nous, Monsieur Émile. Alors, Monsieur Émile, avec son chat, avec la binerie, avec Rataplavaski. D'ailleurs, j'ai réalisé en le mentionnant tantôt, pour la première fois, je n'avais jamais réalisé Rataplavaski, il y a le mot « rat » là-dedans. Est-ce que c'est une vue de mon esprit ou c'est intentionnel?
Non, je pense que c'est pas c'est une vue de l'esprit.
Ah bon?
Il y a des gens qui m'ont parlé, après l'apparition du livre, bien sûr, d'une certaine Blavatsky, une dame qui était une voyante que je ne connaissais pas. Apparemment, était très célèbre dans certains milieux. Rataplavaski, dans le fond, bien évidemment, le ski, ça fait une consonance slave, mm-hmm. la terminaison. Mais je l'ai inventé, il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Ça rappelle peut-être un roulement de tambour, Rataplava, ça fait tac-tac-tac-tac.
Ratatapla.
Oui. Et le personnage, la genèse de ce personnage-là, les origines sont très claires pour moi. J'étais en train d'écouter du Moussorgski.
Oui.
Le fameux compositeur qui a écrit, qui a composé Une nuit sur le Mont Chauve et puis Boris Godunov, oui. etc., des grands opéras, c'est un bon. Mort prématurément d'alcoolisme. Et il a beaucoup écrit. Il a écrit pas seulement que des opéras puis des pièces orchestrales, mais il a écrit aussi des. En allemand, on dit des Lieder, je dirais des chansons, mm-hmm. Plusieurs. Et une de ces chansons-là, c'était L'air de la puce. Et L'air de la puce, c'est tiré de la légende de Faust. C'est le démon qui, dans une taverne, chante une chanson qui raconte les amours d'un roi pour une puce et qui lui fait faire des habits sur mesure. Et on comprend tout de suite que Méphistophélès se moque des gens devant qui il chante cette chanson. Et moi j'écoutais cette chanson-là qui était chantée par Kim Borg et dans une orchestration de Shostakovich, parce que Shostakovich a refait, a refait l'orchestration de deux opéras au moins de Moussorgsky, Kovanchina et puis Boris Godunov. Vous savez, Moussorgsky a laissé une œuvre, disons, assez éparpillée et pas toujours en état de finition. Il vivait une vie de bohème, et gros alcoolique, grand alcoolique, mais un génie formidable. Et j'écoutais cette chanson-là. Et on n'a qu'à l'écouter, c'est sardonique, c'est un humour qui est coupant. Et c'est en l'écoutant que j'ai eu, comme ça, par association mystérieuse, là, l'idée de... L'image m'est apparue d'un grand vieillard d'origine étrangère qui vivait à l'hôtel Nelson. L'hôtel Nelson qui est sur la place Nelson, mais qui n'existe plus maintenant, c'est autre chose. Et qui est un personnage maléfique et qui est très puissant. Dont on ne connaît pas les visées. Et j'ai pris des notes dans un calepin et c'est devenu un des personnages principaux du Matou. Et je me suis aperçu après coup que c'était, en fait, je venais de trouver une sorte d'équivalent à Satan ou à Méphistophélès.
Oui, parce que Ratablavski, pour ceux qui ont lu le livre, incarne cette idée du bien et du mal, c'est-à-dire il est le mal dans d'une certaine façon.
Oui, puis on a pu le tuer, donc c'est un peu comme Satan, l'image qu'on se fait du diable, c'est que le diable est éternel et puis le diable est très puissant et bon, voilà.
Imaginez-vous le succès qu'aurait ce roman?
Personne ne peut prévoir ça. Personne ne peut prévoir le succès comme l'échec, je pense.
Mais lorsqu'on écrit, j'imagine qu'on est imprégné de ces personnages, on est dans sa bulle.
Oui, au moment où on écrit, on est dans sa bulle et quand on sort de sa bulle, ben, on devient tout à fait normal et on va qu'à ses occupations habituelles et terre à terre.
Mais on a la jouissance, sans aucun doute, de vivre un moment magique. Peu importe le succès qui viendra ou qui ne viendra pas, au moment de l'écriture, il y a sûrement cette portion là, de magie qui s'installe
en
soi.
Oui, c'est sûr. Écoutez, on écrit, c'est pour le plaisir d'écrire. S'il fallait qu'on écrive pour le succès, il n'y aurait pas beaucoup de livres qui se feraient. Je veux dire, on écrit pour le plaisir d'écrire. Moi, L'Amphiroapile, mon premier livre, je l'ai écrit parce que c'est comme ça, pour le plaisir, comme les gens jouent au golf ou comme les gens vont apprendre le piano ou l'accordéon ou, je sais pas moi, apprendre le judo ou la bicyclette ou je sais pas quoi, n'importe quoi.
Mais toujours faut-il avoir cette maîtrise de la langue. Il y en a un qui a une belle langue, qui nous a transmis des mots formidables. C'est le grand poète qui a pour nom Gilles Vigneault.
Ah oui.
Et qui a sorti récemment un album avec d'autres chanteurs, d'autres compositeurs, d'autres interprètes. Le voici en compagnie d'Anne Sylvestre. Pour vous, la source, parce que on vient un peu de comprendre la source de votre inspiration.
La source qui fait le ruisseau n'en demande pas son salaire. La source qui fait le ruisseau, la source ne vend pas son eau.
Leur ruisseau d'entre les cailloux, leur ruisseau qui fait la rivière, qui donne à boire aux lièvres, aux loups, ne leur demande rien du tout. Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
La rivière qui va rêvant d'avoir son dos plein de navires, comme le fleuve au loin devant, la rivière coule en rêvant.
Le fleuve accueille les poissons et la marée et les épaves, les oiseaux et les vents qui sont les capitaines des saisons.
Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
Et la mer met son grain de sel, et ses berceaux et ses tempêtes, comme une abeille fait son miel de tout ce qui tombe du ciel.
Écume en brun, brume et brouillard, c'est de vous que ma source est faite. Écume en brun, brume et brouillard, et de vos nuages fuyards.
Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
source qui fait le ruisseau ne demande pas son salaire. La source qui fait mon ruisseau, ma source ne vend pas son eau. Et c'est ainsi que tout arrive, c'est ainsi que je meurs en toi. Et c'est ainsi que tout m'arrive,
c'est ainsi que j'espère en moi.
Gilles Vigneault, Anne Sylvestre, la source est avec nous. Ben, c'est peut-être l'eau qui coule dans la source, et Yves Beauchemin qui est avec nous. Monsieur Beauchemin, j'ai extrait une phrase de votre dernier roman, La serveuse du café Chérié, parce qu'elle m'a vraiment... je l'ai relu plusieurs fois, cette phrase-là, en lisant votre livre, et je me disais, ah, c'est profond. Les bêtes, et c'est Pierrot Bernard qui dit cela à Mélanie, les bêtes sont comme nous. Projeté dans la vie par une force impitoyable, puis condamné au supplice de l'anéantissement. C'est pas très rose, ça?
Ben, il venait de voir un chien qui se faisait écraser par un camion et dont les entrailles lui sortaient par la gueule. Alors, évidemment, oui, effectivement.
Mais pris hors contexte, on pourrait donner beaucoup de sens à cette phrase.
Oui, bien sûr. Ben, en fait... nous sommes tous des animaux, n'est-ce pas? Je veux dire, vous faites la dissection d'un animal et puis vous allez retrouver tous les organes de votre corps à vous et à moi. Mais je vous prierais que si vous voulez me disséquer, de remettre ça un peu de temps. C'est très douloureux, surtout fait à froid.
Mais quand vous faites, vous, la dissection du pays que vous habitez, on écoutait Gilles Vigneault, est-ce que vous êtes... porté par une force impitoyable ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment que l'on va vers un anéantissement? Quand on regarde ce qu'est le Québec d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il a été et par rapport à ce qu'il pourrait être?
Le Québec d'aujourd'hui, à bien des égards, est en bien meilleur état que le Québec d'il y a 100 ans. On est dans l'Occident. Le taux d'instruction, le salaire moyen, la position sociale de bien des Québécois, la constitution d'une classe d'affaires vraiment québécoise de chez nous, contrairement à ce qu'il y avait avant où la bourgeoisie était presque essentiellement anglophone ou alors étrangère, ça nous a permis de marquer des points. Mais la vie, c'est compliqué. On avance sur certains fronts, puis on recule sur d'autres.
Sur celui de la langue, particulièrement. Là, il y a encore peut-être des reculs.
Oui, bien sûr, parce que...
Des reculs ou des avancées, tiens?
Il peut y avoir des reculs et des avancées. Quand même, l'instauration de la loi 101 en 1977, ça a été une étape décisive pour nous. Le français devenu langue officielle, c'était quelque chose, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit gars, mon père, qui travaillait pour la CIP, Canadian International Paper, tous les dimanches, qui s'échinait à faire son rapport de la semaine en anglais. Ce qui était terrible, c'est que c'était perçu comme normal. Comprenez? Mm-hmm. C'était perçu comme normal. Moi, j'habitais un petit village, Clovan, et puis dans le bas de la côte, c'était ceux qui travaillaient dehors, et qui étaient surtout francophones. Puis dans le haut de la côte, c'était ceux qui travaillaient surtout au bureau, donc plus près du pouvoir. Et puis eux autres, ils étaient pour la plupart anglophones. Et ça, c'était la vie. Mais c'était la vie et c'était pas accepté par nécessairement tout le monde, parce que si ça avait été accepté par tout le monde, on serait encore dans la même situation. Mais ça a changé parce qu'il y a eu des prises de conscience et tout ça. Et on a fait un grand bout de chemin, mais...
Vous parlez de prise de conscience, on va pouvoir poursuivre, mais il y a des chansonniers qui ont fait prendre conscience de cette qualité que nous avions d'être des francophones en terre d'Amérique. Et Jean-Pierre Bérubé a écrit une chanson au milieu des années 70 qui s'appelle « La marche des poètes » et qui fait l'éloge de ces chansonniers qui ont porté dans leur cœur et dans leur voix tout ce mystère et cet avenir que pouvait déployer le Québec en terre d'Amérique.
Québec, ça n'a rien à voir avec messieurs les frères, nos bonnes sœurs, nos vicaires. Québec, ce n'est plus une église, mais un clan de terriens qui depuis des années s'ouvre le cœur et gueule pour ne pas que tu meures, pour ne pas que tu meures. Par beau Charlevoix, Duguay, Gautier, Julien, Leclerc, l'évêque, l'éveillé, Péloquin, Sauvageau, Tremblay, Vigneault et les autres. Québec, ce n'est pas ton grand-père, assis au Parlement, fonctionnaire et tout fier. Québec, c'est encore un pays, avec ses ouvriers et ses poètes qui s'ouvrent le cœur et gueulent pour ne pas que tu meures, pour ne pas que tu meures. Québec, c'est Tijan le théâtre, c'est Raymond réaliste, c'est Pauline qui crie. Québec, c'est l'ouvrier qui danse, le poète qui chante, et maintenant c'est toi qui t'ouvres le cœur et gueule pour ne pas que tu meures, pour ne pas que tu meures.
Belle chanson, n'est-ce pas, M. Beauchemin?
C'est superbe.
Alors, vous disiez donc que vous étiez dans ce pays, dans cet arrière-pays, parce que vous êtes originaire d'Abitibi.
Oui, je suis né à Noranda.
Et il fallait donc, et c'était normal, comme vous le disiez, votre père, de remplir des rapports en langue anglaise. On ne prenait pas nécessairement tout de suite conscience de ce que nous étions à cette époque.
Écoutez, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation, il n'y avait pas d'assurance maladie. Je veux dire, on était peut-être en Occident dans une situation, en tout cas comparé à l'Europe, c'était lamentable. Mais à partir des années 60, à partir de l'équipe du Tonnerre de Jean Lesage, le premier gouvernement libéral qui véritablement à ce moment-là portait son nom, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, d'après moi, parce que libéral veut... On pourrait remplacer libéral par républicain, et puis ça ferait pareil, là, je veux dire, il n'y a pas grand changement, ou à peu près pas. Bon, alors, il y a eu ça, mais il y a des... Puis, le français a connu de grands progrès, je pense, tout au long des années fin 70, début 80, mais, vous savez... Je pense que si le Québec venait à, en tout cas, connaît un déclin, s'il connaissait un déclin qui pourrait peut-être le mener à sa disparition, c'est-à-dire à la disparition d'une société française, d'un pays français, la cause en serait bien simple, ce serait la médiocrité. La médiocrité de ses dirigeants, parce que on peut pas demander à un peuple d'avoir continuellement des chefs sans vision, des chefs qui sont soumis aux ordres soufflés par la bourgeoisie d'affaires, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle soit sur place, et que ce peuple-là puisse durer longtemps. La France peut se permettre, pendant un certain temps, quelques présidents du type Sarkozy, mais la France est un pays constitué, un pays de 60 70 millions environ. D'habitants. Oui. C'est un pays puissant qui existe depuis des centaines et des milliers d'années, enfin au moins 1000 ans.
Alors qu'ici, on est presque toujours en mode de survie.
On est en mode de survie et on n'est pas un pays, on n'a pas les structures politiques pour défendre nos intérêts. Alors, on ne peut pas se permettre d'être médiocre longtemps.
La prochaine pièce qui terminera cette première partie porte probablement bien le titre à l'égard du propos que vous venez de tenir. C'est une complainte. Elle est tirée de scènes de ballet et c'est d'André Mathieu que vous aimez beaucoup.
Oui.
Qu'on connaît beaucoup pour son piano, son concerto pour piano et orchestre, connu sous le nom de Concerto de Québec. Mais on connaît peut-être un peu moins bien cette complainte. Alors, c'est Alain Lefebvre qui nous a fait beaucoup découvrir André Mathieu ces dernières années.
On doit à Lefebvre la redécouverte de Mathieu et peut-être la redécouverte d'un compositeur de qualité exceptionnelle qu'on avait oublié. Il faut dire qu'il a peut-être tout fait pour se faire oublié lui-même avec les problèmes personnels qui l'accablaient. Ça n'a pas aidé sa carrière, ça a même causé sa mort prématurée.
On parle de l'alcool aussi.
Ah, hein, bien oui. Entre oui, autres. Comme Moussorgski.
Oui, tout à fait. Alors, on va écouter ici l'Orchestre symphonique de Tucson sous la direction de George Hanson. Ça fait très musique de film, ce qu'on va entendre. Et pourtant, ça date pas d'hier, comme on dit. Mais c'est quand même très joli et c'est de chez nous.